Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairies. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour et bienvenue dans ce 10-10, aujourd'hui avec des invités qui sont Sylvie Wacrenier et Elisa Gebauer. Je vais vous les présenter plus longuement dans quelques instants, mais en tout cas nous avons rendez-vous avec la bulle douche nomade, à ne pas confondre, je l'ai dit tout de suite, avec la bulle bleue, parce que je suppose que c'est une erreur qui se fait fréquemment. Sylvie Wacrenier, vous êtes coprésidente de cette association, Elisa Gebauer, vous êtes salariée, vous êtes deux salariées, vous êtes donc une des deux salariées, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, je disais, il faut bien préciser, ça, c'est parfait. On sent tout de suite que la présidence et les salariés travaillent.
On a répété.
cette bulle douche nomade, à ne pas confondre avec la bulle bleue, qui est une compagnie de théâtre, je crois.
C'est une compagnie de théâtre pour personnes handicapées.
Voilà. Et donc, c'est tout à fait différent. Donc, on va parler de cette initiative qui dure maintenant depuis pratiquement 6 ans, en 2019, la création à peu près.
2019, les premières maraudes. 2017, la création.
Alors, on va voir le contenu donc, de cette association, ses projets, ce qu'elle fait, effectivement. Donc, les fondateurs, en fait, à l'origine, ce sont, j'allais dire un groupe d'amis, mais enfin, c'est des gens qui se connaissaient, qui étaient déjà dans le travail social.
Oui, oui, c'était deux étudiantes en formation de travailleuses sociales qui ont, à la fin de leur formation, décidé de monter un projet s'inspirant d'une bulle qui existait à Paris.
Donc, qui portait pas ce nom, mais bon.
Mobile douche.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'était l'idée d'un camion avec une douche à l'intérieur, pour faire vite, et qui allait auprès des gens en grande précarité, sans logement ou en grande précarité, pour proposer une douche.
Alors, grande précarité, c'est-à-dire très pauvre, sans logement, c'est SDF, on a ce vocabulaire-là.
Oui, mais aussi, quelquefois, des gens qui ont des appartements insalubres.
D'accord. Enfin, tu vois, voilà. Donc, l'idée, c'était de leur proposer un endroit mobile dans lequel ils peuvent prendre une douche. Donc, ce camion est aménagé, bonne idée. L'association est créée, commence à tourner juste un tout petit peu avant la Covid. Bon, il y a l'épisode Covid, mais ça, vous l'avez traversé comme tout le monde, comme vous avez pu. L'idée, c'est peut-être pas que de donner des douches à ces gens-là. Alors, comment vous les rencontrez? Comment vous vous donnez des rendez-vous? Ceux qui viennent vers vous, comment ça se passe? Et deuxièmement, que se passe-t-il en dehors de la douche, si je puis dire?
Et oui, bien sûr.
Parce que dans la douche, on ne sait jamais, je suppose.
Du coup, oui, les personnes nous contactent via le numéro de la bulle ou via le 115. Et nous, ensuite, on convient d'un rendez-vous et on va vers le lieu de vie de la personne ou là où elle fait la manche. Et effectivement, il y a plusieurs objectifs dans la maraude. Donc, il y a d'abord l'accès à l'hygiène avec une douche, des produits d'hygiène, un coiffeur.
Vous donnez des produits d'hygiène?
Oui, on a des produits d'hygiène dans le camion.
Ils peuvent aider comme quoi, par exemple?
On a des lingettes, des mouchoirs, ça c'est vraiment la base. Et après, on a aussi des déodorants, des brosses à dents, des dentifrices. Enfin, on a de quoi faire un petit kit d'hygiène pour les personnes qui en
alors,
auraient besoin.
Alors, je suppose
besoin.
Que vous avez plus d'hommes que de femmes, mais pour les femmes, il y a des petits trucs plus particuliers.
Oui, on a parfois, selon les dons aussi, des petits bijoux, du maquillage.
Des produits de beauté?
Des produits de beauté, tout
à fait. Voilà. Donc, premier objectif, c'est la douche, effectivement, mais
voilà.
Pas que.
Pas que. Du coup, il y a aussi la création de liens sociaux. Donc, nous, c'est un accueil inconditionnel. On va vers la personne. Ça, c'est une dimension importante aussi. Et on prend le temps de faire une pause, d'échanger autour d'une collation. Donc, on a de quoi proposer une petite collation dans le camion, un café, un chocolat chaud.
Du chaud, du froid, selon la saison.
Oui, tout à fait.
Et quand vous dites le lien social, bon, pour vous, les éducateurs, tout ça, ça a une résonance. Mais ça veut dire quoi? C'est papoter, c'est...
Oui, c'est prendre le temps de se rencontrer, de prendre le temps en dehors juste de la douche, d'échanger. Et nous, après, en tant que travailleurs sociaux, il y a l'idée aussi de pouvoir être une passerelle. Donc, on évalue les besoins, on informe les personnes de ce qui existe sur le territoire de Montpellier et on oriente vers les autres associations en fonction des besoins qu'on a pu évaluer en amont.
D'accord. Alors, c'est justement dans ce papotage que se trouve peut-être un des secrets de la bulle, mais aussi les limites. C'est-à-dire qu'on laisse des gens s'exprimer sur ce dont ils veulent parler parce qu'ils ont tous des histoires, tous des passés. Et je suppose que l'idée, c'est quand même de les laisser parler, de leur laisser dire ce qu'ils souhaitent dire et peut-être pas d'aller chercher d'autres choses dans leur situation.
Non, tout à fait. Je voudrais juste faire une petite précision qui est très importante sur l'accueil inconditionnel par rapport à d'autres associations qui font un travail remarquable. Le problème n'est pas là. C'est que nous ne leur demandons rien. Ils peuvent être sans papier, ils peuvent être en situation...
En cavale. Ça peut arriver,
je suppose. Ils n'ont pas de papier à donner, ils n'ont pas de carte vitale, ils n'ont pas de dossier à remplir. Ils sont là, on les prend, ils arrivent, voilà.
Oui, le principe, ils peuvent même nous donner un surnom, ils ne sont même pas obligés de nous donner une véritable identité.
Et le principe, c'est effectivement d'accueillir des gens qui n'ont pas trop d'autres moyens de se toucher.
Voilà, exactement.
C'est ça la seule base.
Très éloignés, on va dire, des structures associatives pour X raisons. Et donc de les accueillir. Quand tu disais que on parlait, je crois que c'est un des...
J'ai dit on papote. C'est
oui, t'as raison. On papote et c'est toujours des moments très intenses parce que justement le fait qu'on leur demande rien. Il y a des choses qui se disent, qui sont de très, très, très fortes, de leur parcours, de leur histoire, de leur... parce qu'il faut dire que dans cette population-là, tu as beaucoup de personnes qui ont un long parcours d'abandon, qui ont déjà vécu dans des tas d'associations sociales, foyers, enfin, etc. Donc, il y a beaucoup à dire.
Il y a des gens qui ont des addictions, beaucoup. Alors, justement, à ce sujet-là, moi, je pense, je voudrais devenir bénévole à la Bulle. Peut-être que j'aurais une crainte en me disant, bon, c'est des maraudes, on n'est pas tout seul, hein. Il y a toujours un travailleur social, il y a parfois même un stagiaire, je suppose, parce que vous accueillez des gens en stage. Et puis après, il y a peut-être un ou deux bénévoles dans chaque maraude. Mais est-ce qu'il y a un danger? Parce que ça, des fois, vous maraudez un peu le soir.
Oui, on peut marauder. On a deux types de maraudes, les maraudes de journée, les maraudes où c'est plus tard le soir. Effectivement, il y a toujours deux bénévoles et un travailleur social. Donc, le bénévole qui souhaite venir à la Bulle, il n'est pas seul. Il y a la possibilité, dans un premier temps, de faire une immersion, de se rendre compte de ce que c'est qu'être bénévole à la Bulle et surtout d'être libre, de pouvoir se mettre en retrait si à un moment, le bénévole ne se sent pas à l'aise. Il peut être dans le camion ou aller s'éloigner. Il y a toujours le travailleur social qui est présent. Donc, il n'y a aucune obligation de rester sur place avec la personne si à un moment, il y a une situation un peu plus compliquée. Et nous, on est aussi vigilante à débriefer à la fin de la maraude pour savoir si tout s'est bien passé, s'il y a eu des choses difficiles. Et il y a des espaces qui sont pensés à la Bulle aussi pour pouvoir parler de situations
complexes. On en parlera un petit peu plus tard parce qu'être bénévole à la Bulle, c'est très enrichissant, je suppose, mais peut-être ça peut être très déstabilisant aussi certaines fois.
Tout à fait.
Je reviens sur cette histoire de donner du temps. Je suppose que parfois, vous pouvez être vous-même un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de certaines situations et le cœur peut prendre le dessus sur, finalement, la technique, parce que marauder, c'est aussi assez technique. On peut être tenté d'aller peut-être un petit peu au-delà de... J'en parle à Sylvie parce que je sais que c'est peut-être... Le cœur parle souvent et que...
Non, mais c'est évident. Et c'est pour ça que je trouve que ce qui est très, très bien dans ce qu'elles ont pensé quand elles ont créé la Bulle, on peut les nommer, c'est Noémie et Sarah.
Mais elles ne sont plus là.
Oui, parce qu'elles ont, elles continuent elles ont leur parcours
professionnel.
Professionnel. Et donc maintenant, nous avons Elisa et Pauline. Mais si tu veux, je trouve que ce qu'elles ont quand même initié de très bien, c'est que quand les bénévoles s'inscrivent dans le projet de la Bulle, elle propose des formations. Voilà, des formations en addictologie, des formations en psychiatrie, des formations diverses et variées, nécessaires, et qu'il n'y a jamais dans le camion quelqu'un qui n'est pas issu du travail social. C'est-à-dire parce qu'il y a des bénévoles qui ne sont pas du tout, qui peuvent être commerçants, pharmaciennes, étudiantes, en droit, enfin tout ce que tu veux.
Bon.
Et il y a toujours, donc les salariés, les deux salariés sont de travail social, et il y a toujours dans les bénévoles, enfin voilà. Donc ça protège, la formation quand même des fois protège de situations très compliquées.
Alors il va nous rester une minute sur cette première partie, c'est toujours en trois parties, donc on va écouter, on va faire une petite pause musicale sur un choix d'ailleurs de Sylvie. La question qui tue, quelles sont les qualités pour être bénévole faisant partie des maraudes, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres activités à la Bulle. Quelles sont les qualités pour vous pour être bénévole?
Alors il y a quelque chose qui n'est pas que pour être bénévole à la Bulle, c'est être dans une capacité d'écoute importante, en empathie, on peut dire, hein, c'est pas un gros mot, et d'écoute et d'observation, parce que ça peut vriller en 3 secondes. Donc, si tu observes, tu vois bien que lui, il a peut-être un peu trop bu ou machin, et qu'il va peut-être falloir pas dire certaines choses ou d'autres. Donc, ça demande déjà d'être dans une disponibilité, une écoute et une observation. Voilà. Je ne sais pas si tu vas être d'accord.
Elisa, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ça, être capable de se poser, d'écouter la personne, d'observer des situations qui pourraient être plus compliquées pour s'appuyer du coup sur le travailleur social qui est sur place.
Et moi, Sylvie, je rajouterais alors peut-être quelque chose, mais qui me vient à l'esprit comme ça, non jugeant.
Complètement. Oui.
Mais ça paraît évident, mais c'est pas toujours
c'est
simple.
Vrai. C'est vrai.
Non, personne ne juge jamais personne, mais enfin, tout le monde juge quand même.
On voilà. Oublie l'évidence.
Première petite pause médicale, si vous le voulez bien. Donc, vous avez choisi, Sylvie, vous avez choisi « J'aime les dents qui... les dents qui joutent » et « Les dents qui... »
et « Les dents qui doutent ». »« Les dents qui bougent ».
On écoute ça.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse foutent la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses.
Voilà, j'aime les gens qui doutent. C'est vous, Sylvie, qui avez choisi cette musique?
Oui, c'est moi.
Et pourquoi?
parce que c'est une belle personne qui s'appelle Anne Sylvestre, qui est une militante de la vie pour les femmes, pour plein de choses. Et que cette chanson, elle est à la fois très simple et...
Et très vrai, parce que
nous doutons en permanence.
Il vaudrait mieux que nous doutions tous en permanence. Oui, voilà. Mais il y en a qui doutent de rien. Je rappelle que nous écoutons, que vous écoutez plus exactement le 10-10 d'aujourd'hui, qui est consacré à la bulle douche nomade, avec Sylvie Wacrenier, qui est la coprésidente de cette association, et Elisa Gebauer, qui elle est salariée. Donc elles nous ont présenté la bulle, elles nous ont parlé de sa création. Alors il y a un élément extrêmement important, un personnage extrêmement important dont on n'a pas parlé. Que peut-il être? Le camion. Parce que sans camion,
indispensable.
La bulle douche nomade n'est plus bulle douche nomade. Elle est bulle douche, mais pas nomade.
Non.
Alors, ce camion, donc, on va en dire un petit mot quand même. Quand on dit c'est un camion aménagé, il y a une douche dedans, mais il y a beaucoup de camping-cars qui ont une douche dedans. Mais là, comme l'objectif, c'est quand même de parler avec les gens, il faut pouvoir leur parler à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Enfin, faut, C'est tout un aménagement quand même.
Oui, tout a été pensé dans ce camion pour accueillir au mieux les personnes. Il n'est plus du tout comme il était d'origine. Il a été réaménagé.
Elle est très bonne parce qu'elle ne l'a pas connu à l'origine. Mais c'est pas...
Non, mais je vois à quoi ressemble un camping-car.
On va revenir sur la taille du camping-car, effectivement. Oui.
Où souvent c'est une mini-douche dans les camping-cars. Oui, oui. Là, la douche est spacieuse pour permettre aux personnes de pouvoir poser leurs affaires et d'avoir de l'espace quand ils prennent leur douche. Ça a été pensé aussi en quantité d'eau. Donc, c'est une cuve d'eau qui est plus conséquente qu'à l'origine pour pouvoir proposer plus de douches.
Eau chaude, bien sûr.
Évidemment, avec de l'eau chaude.
Rassurez-moi.
Et pour faciliter aussi le ménage, parce qu'on est vigilante à désinfecté entre chaque personne, donc voilà, tout a été pensé.
On fait un petit stop là-dessus. J'ai parlé de la Covid tout à l'heure, mais c'était bon, là, il y avait effectivement des mesures très particulières à prendre, mais il y a quand même une question d'hygiène, ça veut dire qu'entre chaque douche, c'est non pas nettoyé, mais désinfecté.
Tout à fait. Entre chaque douche, c'est désinfecté pour que la personne suivante arrive dans une douche qui est propre.
Voilà, ça veut dire que si des gens sont susceptibles de devenir des bénévoles, il faut qu'ils sachent qu'ils auront non pas simplement à papoter et à recueillir quelques confidences de certains usagers ou
ménage,
bénéficiaires,
oui.
Ils auront à faire le ménage. Bah, ménage des fois qui est peut-être un peu compliqué quand même, parce que ce sont des gens qui ne se sont pas lavés parfois depuis longtemps. Il faut, voilà. Et il y a des serviettes de toilette qu'ils fournissent ou que vous fournissez vous?
Non, on fournit les serviettes de toilette et le gel douche, le shampoing, évidemment, des gants de toilette. Enfin, la personne arrive, peut prendre sa douche, il y a tout ce qu'il faut dans le camion.
Alors, je reviens sur ce fameux camion. Qui le conduit?
Alors, qui le conduit? Eh bien, donc nous, les deux salariés, Pauline et moi-même, mais aussi...
Elle doit peser 40 kilos, tout égoutté.
Toute mouillée, ouais.
Pour conduire ce gros camion.
Et le truc fait, je crois, plus de 7 mètres, c'est
ouais,
ça?
Enfin,
c'est
le truc. Et 3,50 mètres de haut, donc oui, c'est quand même...
Ah oui, enfin, il y a des endroits où vous devez avoir peur, d'ailleurs.
Oui, les ponts, on est hyper vigilants à ce que la hauteur...
Ah oui, parce que vous avez vite fait d'éteindre le camion, là.
Il y a plus de camion, c'est ça.
Ensuite, il est vieux, en plus, je crois.
Oui, il est vieux.
Mais c'est un Mercedes.
Oui. Il est entretenu par qui? Bah, je suppose qu'il y a un garage qui l'entretient, mais est-ce que vous avez des bricoleurs, vous, dans l'équipe, qui sont capables de faire des choses?
Bah oui, on a notre cher président qui a pensé tout ce réaménagement du camion, qui est aussi d'ailleurs un des conducteurs et qui est précieux parce qu'il nous fait toutes les petites réparations qui sont nécessaires dans le camion et qu'on peut appeler pendant la maraude si jamais il y avait un couac sur quelque chose. Donc oui, oui. On a...
C'est-à-dire qu'à la création, si tu veux, on parlait de Noémie et Sarah, il y avait Hervé qui est donc coprésident et qui gère le camion, on va dire, voilà, c'est Géo trouve tout, et Agus qui fait aussi partie de la création, qui gère tout ce qui est la trésorerie, les salaires, etc.
Oui. Alors, le camion, c'est conduire. Donc, conduire, les bénévoles ne conduisent pas. Il n'y a que les salariés.
Si, il y a aussi... Donc, Agus, dont elle parle, le trésorier, fait une maraude le dernier dimanche du mois, bénévolement. Donc, Agus conduit.
Mais depuis longtemps. J'avais entendu parler de 3 conducteurs. Donc, je suppose que c'était les 2 salariés,
ouais,
Agus.
C'est ça.
Et peut-être le mécanicien aussi.
Oui, et Hervé.
Et Hervé.
Voilà. Et aujourd'hui, on a aussi 3 autres bénévoles qui conduisent le camion. Et ce qui est très chouette pour nous, salariés, parce que ça nous permet, pendant que le bénévole conduit, de pouvoir gérer d'autres choses, des appels. Voilà, donc, c'est précieux, ça aussi.
Alors, la douche, c'est une des activités de la douche bulle nomade. Je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Ou de la bulle douche nomade, plutôt. Et je savais bien que j'avais fait une inversion. Mais ce n'est pas tout. Vous dites que vous donnez des vêtements aux gens. Enfin, vous leur donnez un petit peu à manger, vous leur fournissez les produits d'hygiène, etc. Ils ont des serviettes de toilette propres et désinfectées entre eux. Mais vous leur proposez des vêtements. Mais alors, comment vous faites? Parce que quand même, tous les profils sont un peu différents, toutes les tailles sont différentes, tous les goûts sont dans la nature. Comment vous arrivez à avoir dans ce camion un mini vestiaire? Quand vous avez une boutique, vous pouvez avoir des portes, des choses comme ça. Là, vous allez résumer les besoins en très bonne place.
Oui, c'est un gros travail au niveau des vêtements. Bon, la bulle achète 9 les sous-vêtements, donc caleçons, chaussettes, culottes. Mais
vous achetez quelque part en particulier?
On a des petits partenariats ou des endroits qu'on a repérés où on sait
que... On peut citer, hein, ça, c'est pas dérangeant.
On va à Zeman, par exemple, où du coup...
Parce qu'il y a des opérations aussi avec Zeman, il me semble, parce que j'ai vu placarder des relations. Il y a une relation, quoi.
Oui, c'est ça, où du coup, ils ont pu mettre des affiches pour que les personnes puissent acheter un caleçon pour nos bénéficiaires. Donc ça, on achète 9. Et après, bah, tout le reste des vêtements qu'on peut fournir, c'est des dons. Donc on a un local de stockage et on a 2 bénévoles qui sont responsables du tri et qui organisent des sessions de tri pour que les vêtements soient le plus adaptés aux gens qu'on rencontre pendant nos maraudes. Et ça, c'est beaucoup de travail.
Ça veut dire que si on ne se sent pas de faire des maraudes, on peut très bien, entre guillemets, travailler ou œuvrer au sein du tri des vêtements, tout en sachant effectivement qu'il y a des choses, je suppose, à respecter. Enfin, on ne garde pas les pantalons blancs, les robes de soirée, les talons hauts.
Ah, les robes de soirée, non.
Non, mais voilà, on vous donne de tout. Donc.
Non, c'est sûr qu'il faut penser, personne à la rue. Donc, bien sûr, des vêtements adaptés à la rue, des chaussures adaptées à la rue, donc pas des talons aiguilles ou des choses comme ça, les vêtements, des doudounes, des parkas, des caouets. Enfin,
alors, voilà. On va peut-être lancer un appel là, mais pas pour, non, pas maintenant. Pas pour le local, mais pour les vêtements. Parce qu'effectivement, il y a des choses, j'ai cru comprendre hein, dans les explications que vous m'avez données, mais évidemment, tout le monde fait à peu près la même taille. Les garçons font tous du 42 oui. En chaussures, voyez-vous. 45, 47, c'est plus grand.
Et les femmes du 38.
Donc, si vous voulez, on n'a pas toujours que ces tailles-là, apparemment, à la bulle. Et tous cherchent des suites à capuche, vous m'avez dit.
Oui,
voilà. La suite à capuche, apparemment, c'est le
Graal. Et des jogging.
C'est le Graal
oui.
du client, entre guillemets, de la bulle douche nomade. Donc, là, on peut lancer cet appel si vous avez.
Alors, on peut le lancer, mais en lien avec le fait que nous avons un local, on est obligé de le faire maintenant. Ouais. Nous avons un local à la menuiserie collaborative à Montpellier.
Oui, non, mais.
Je vais expliquer pourquoi. On va devoir le vider.
Oui.
Donc tout de suite maintenant.
D'accord.
On peut pas recevoir des dons parce que on va faire des cartons pour trouver un autre local.
Ça tombe mal. Alors vous cherchez plutôt des cartons, donc c'est ça.
Des cartons.
des cartons. Des bras.
Des sous. Voilà.
Et des bénévoles.
Ça veut pas dire qu'on en aura pas besoin.
Oui.
Mais là tout de suite, on saurait pas quoi en faire. Tout de suite maintenant.
On va parler tout à l'heure quand on va se retrouver derrière une nouvelle pause musicale, hein, parce que ça va vite tout ça. On va parler quand même de l'évolution du public en 6 ans, ou peut-être le faire maintenant en quelques instants. Qu'est-ce que vous avez vu changer, en 6 ans?
Oui. Alors, ce qui évolue en 6 ans, c'est que là, aujourd'hui, on est amené à avoir de plus en plus de familles. Donc là, cette année, on était sur une vingtaine d'enfants pour le moment. Donc, ça nous amène, nous, à repenser le cadre, en tout cas, de l'accueil d'enfants à la bulle et peut-être de perspectives aussi auxquelles on doit réfléchir. Sinon, globalement, on reste sur environ 80% d'hommes et 20% de femmes. Mais
avec quand même un taux de fréquentation qui augmente.
Avec un taux de fréquentation qui augmente.
Avec des nouveaux.
Oui, des nouveaux. On est à 1200 douches par an à peu près. Et entre 2023 et 2024, il y a eu quand même 300 douches de plus. Donc c'est
énorme.
Conséquent.
C'est énorme. C'est l'histoire du colibri hein, qui met sa petite goutte d'eau, mais qui vient effectivement compléter toutes les autres gouttes d'eau pour que la vie soit plus simple et plus facile pour certains.
On refuse chaque jour des personnes pour la douche. Donc c'est une réalité, ouais.
Musique maintenant, donc Sylvie a fait un autre choix musical, mais alors là il faut que vous nous expliquiez parce que c'est beaucoup moins connu que ce qu'on a entendu tout à l'heure.
Alors c'est beaucoup moins connu pour certains, pour d'autres, parce que c'est de la chanson française, c'est Volo, c'est les frères Volovitch. Pour ceux qui écoutent et qui connaissent les Vrigels, ils faisaient partie des Vrigels. Et ce sont deux frères, et qui donc c'est de la chanson française. Et là, c'est une chanson. Ils font beaucoup de chansons politiques, on va dire, engagées.
Vous m'étonnez.
Politiques. Et donc là, j'ai choisi parce que je trouvais que c'était pas mal aussi par rapport au public qu'on accueillait. Français de souche.
Français de souche, donc
des frères Volo.
Frères Volo.
En préambule, c'est quelques mots pour rappeler que le fait de maltraiter les immigrés, de pourchasser les sans-papiers, de les arrêter, de les embarquer, de les mettre dans des camps, de séparer les hommes des femmes et des enfants, et pour les expulser, de les maîtriser, de les attacher, de les entraver et de les bâillonner le cas échéant, ne garantit pas aux Français de souche que sa vie soit plus douce, que son pouvoir d'achat progresse, surtout si le prix de l'essence à la pompe baisse. Ne garantit pas aux Français de souche que sa vie soit plus douce, que le fait de rafler ce venu d'ailleurs fasse que sa situation soit meilleure. Ne garantit pas aux Français de souche que sa vie soit plus douce, que le niveau de l'inflation régresse autant que la liberté de la presse. Ne garantit pas aux Français de souche que sa vie soit
passe, la peur du déclassement ne garantit pas aux Français de souche que sa vie soit plus douce, que la préférence nationale permette de réduire le niveau de la dette. Ne garantit pas aux Français de souche que sa vie soit plus douce, que le fait d'imposer la souffrance fasse qu'on vive mieux en France. Que le fait d'organiser la souffrance fasse qu'on vive mieux en France. Que le fait de justifier la souffrance.
Qu'on vive mieux en France, eh bien, c'est une bonne phrase. On aimerait bien effectivement que beaucoup plus de gens vivent mieux en France. Il y a des gens qui vivent très bien en France, et fort heureusement, c'est un pays qu'on peut remercier certaines fois pour tout ce qu'il a pu offrir en termes de services publics, etc., etc. Mais il ne faudrait pas que ça s'effrite trop, parce que ça deviendrait très compliqué. Je pense que ni Sylvie Wacrenier, qui est la coprésidente de la Bulle Douche Nomade, ni Elisa Gerbauer, qui est salariée, ne me contrediront. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Merci pour nous avoir fait découvrir cette chanson donc des frères Volo. Sylvie, on ne connaissait pas forcément à la radio. On essaiera de repasser quelques autres chansons d'eux de temps en temps, quand
plaisir.
Ce sera approprié. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur la Covid, parce que vous m'avez dit pendant le disque, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant. Quand il y a eu la Covid et qu'il y a eu le confinement long, qui
était
extrêmement dur, voilà, le premier confinement qui était extrêmement dur en 2020, hein, mars 2020, mai 2020, je m'en souviens bien, je venais d'arriver à Montpellier, donc je suis restée fermée 3 mois dans mon appartement, et je ne connaissais personne, et je n'ai pas pu faire connaissance. Donc du coup, il y a eu une autorisation spéciale.
De la mairie de Montpellier, c'est-à-dire au bout de 15 jours de confinement, où la bulle du coup ne circulait plus, la mairie de Montpellier a donné l'autorisation de circuler à la bulle pour aller voir les gens pour qu'ils puissent se doucher. Et donc montrant par là que c'était vraiment une structure de première nécessité pour les sans-abri. Donc
il y avait pour le coup un service d'utilité publique.
Voilà, exactement. Et alors juste pour une petite anecdote, c'était génial pour les conducteurs parce qu'il n'y avait pas d'embouteillage.
Et qu'ils pouvaient prendre l'air. Parce qu'en plus de ça, si je me souviens bien, ça avait été un printemps magnifique.
Exactement.
Voilà. Donc, on va attaquer la troisième partie de cette émission, donc de ce 10-10 consacré à la bulle douche nomade. Vous n'êtes pas les seuls sur le terrain, parce qu'il y en a d'autres qui font des maraudes. Et puis, il y en a plein de services qui s'occupent. On n'a pas l'impression comme ça, mais on a énormément de services et d'associations qui s'occupent des personnes en difficulté. Et d'ailleurs, quand on dit que fait l'État, l'État, au travers de subventions, accompagne ces associations. Peut-être pas suffisamment, on espère que ça ne sera pas réduit. Et d'ores et déjà, je crois que c'est important de dire que l'économie sociale et solidaire, c'est très important et qu'il ne faut pas réduire les aides apportées effectivement à ces associations. Mais vous n'êtes pas les seuls. Donc, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous envoyez les bénéficiaires, est-ce que vous signalez des cas selon... Alors c'est Elsa qui va,
qui va nous répondre. Parler de ça.
C'est une dimension indispensable du travail à la bulle. Il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le réseau de la veille sociale. Donc, c'est des temps d'échange qui sont organisés très variés. Ça peut être avec tous les partenaires, spécifiques aux maraudes, des groupes de travail, des thématiques, la santé mentale, le droit des femmes. Il y a aussi ce qu'on appelle le module de formation au sans-abrisme. Donc, c'est plusieurs associations dont la Bulle fait partie qui co-animent une formation
pour
des bénévoles ou nouveaux arrivants dans le secteur sur les bases un peu du sans-abrisme. Donc, ça, c'est quand même important. Et après, il y a la possibilité de faire des immersions. Moi, quand je suis arrivée à la bulle, j'ai pu aller au SAMU social et au 115. Des personnes peuvent aussi venir à la bulle pour découvrir nos missions. Et nous, une fois par trimestre, on rencontre le SAMU social. Et tout ça, c'est indispensable parce que ça nous permet de nous connaître, de connaître nos missions. Et du coup, quand on rencontre les personnes, de pouvoir assurer une continuité dans le parcours et de pouvoir orienter au mieux les personnes.
Mais est-ce que les gens qui sont à la rue peuvent accéder? Alors, ils ont tous des téléphones portables, je suppose.
Presque tous.
Est-ce qu'ils peuvent accéder à une sorte de répertoire, d'annuaire qui leur dit, selon leurs besoins, les endroits où ils pourraient s'adresser?
Il y a deux choses. Il y a le SoliGuide, qui est une application qui recense tous les services qui peuvent exister sur le territoire de Montpellier. Et il y a aussi le SIAO qui propose des plaquettes. Ils appellent ça les plaquettes veille sociale. Et donc, tous les 3 mois, elles sont actualisées. Et ça permet d'avoir une vision d'ensemble de où manger,
ou dormir,
ou se laver, ou faire des machines. Okay. Et ça, c'est une base qui est
importante. Et ça, vous en avez à distribuer. Enfin, vous pouvez aider quand ils cherchent. Il y en a qui arrivent, ils sont là depuis peu de temps. Ils n'ont pas encore pris contact avec les autres SDF qui leur filent leurs plans, etc. Donc là, c'est des gens à qui vous pouvez donner ça.
Oui, nous, ça, on l'a dans le camion. Et c'est quelque chose qu'on fait presque automatiquement quand on est dans une première rencontre.
Là, faut que tu dises ce que c'est que le SIAO, parce qu'on a tous un vocabulaire professionnel.
Oui.
Et que dans les gens qui écoutent, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que le SIAO, quoi.
Le service intégré d'accueil et d'orientation. Il se passe plein de choses au SIAO, mais c'est notamment là où il y a le 115, donc là où les personnes appellent pour de l'hébergement. Il y a aussi...
Il y a plein d'associations. D'ailleurs, moi, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps le CARUD. C'est pareil, ça permet de suivre des gens dans leur souhait de limiter leur addiction, éventuellement, ou de prendre des produits de façon sécurisée. Quand je dis produits, c'est de la drogue, hein. je traduis aussi parce qu'on dit produit, mais c'est de la drogue. Vous avez dit le 115, ça pose la question du logement. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont à la rue. Certains, ils sont depuis très longtemps et finalement, ils sont bien. On a du mal à le comprendre, mais ils y sont bien parce qu'il y a une liberté qu'ils n'auraient pas dans des structures plus réglementées. Mais il y a quand même un vrai problème de logement. Vous parliez de famille avec des enfants. Ces gens-là, c'est quand même étonnant de les voir dormir dans des voitures parfois, avec des enfants scolarisés.
Oui, la question du logement... En général, et à Montpellier, c'est une question qui est très compliquée où l'hébergement est bouché, le logement est bouché. Et donc, ça prend parfois énormément de temps avant de pouvoir accéder au logement, même quand les personnes sont très vulnérables. Donc, c'est une vraie question.
Mais vous n'avez pas de piste de solution, vous n'avez pas de moyens de pression. Justement, comme vous êtes en fait une association d'associations, grosso modo, si on résume avec toutes les autres associations qui travaillent sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mobiliser plus, d'essayer de trouver des solutions? Parce qu'il y a des gens qui squattent, donc ils squattent dans des immeubles privés ou qui sont désaffectés.
Le problème, voilà.
Il suffirait de les aménager le temps, qu'ils soient rasés, reconstruits.
Le problème, c'est que quand y a des gens qui se battent pour ça, hein, même des bénévoles, pas forcément... Mais que, dernièrement, il y a des gens qui se sont retrouvés à la rue avant la trêve.
Cette histoire de mairie, là,
avant la trêve hivernale. Parce que. Et bon, ça, c'est des. J'ai envie de dire, ce sont des. Comment dire? Ça serait des. C'est l'État, c'est les municipalités, enfin, c'est politique, tout ça.
Bon, là, apparemment, il y a une erreur, entre guillemets. Erreur. La mairie a essayé rattraper un coup, quoi.
Ah, la mairie, elle a
fait ce qu'il fallait, je crois.
Elle est intervenue relativement vite par rapport au fait qu'il y avait ces familles à la rue. Elle a ouvert des places en hôtel social, etc. Mais ça ne résout pas le problème dont vous parlez, qui est énorme, de pas de logement. Voilà, ça c'est...
Il nous reste 2 minutes. Alors, c'est le moment de parler du local, parce que là vous avez une grosse tuile, si je puis dire.
Tout à fait.
Le local où vous entreposez donc les dons de vêtements. Il nous reste 2 minutes.
Oui, donc la menuiserie collaborative où nous, on avait notre local de stockage pour les vêtements et produits d'hygiène ferme. Donc, on se retrouve très rapidement sans solution. Donc, on lance un appel. On est à la recherche d'un local entre 20 et 30 mètres carrés.
20 et 30 mètres carrés à Montpellier, accessible en voiture. Après, ça dépend aussi qu'il y a des hauteurs de plafond. Enfin, c'est à voir. Avec accessible avec le camion ou en voiture. Avec un loyer, on payait.
Raisonnable.
On payait
donnez-nous un chiffre, mais vite, parce que.
Entre 200 et 300 euros. Et très vite, dire que nous avons besoin de dons financiers pour tout ce qu'on a dit, les achats, l'entretien du camion et tout, sur Hello Asso. Et en sachant que c'est défiscalisé, c'est-à-dire que si vous faites un don, c'est déductible des impôts.
Donc les besoins, on recherche un local d'environ 30 mètres carrés, pas trop loin du centre de Montpellier, et accessible en voiture, ça c'est pour stocker des vêtements. Et deuxièmement, on a besoin de sous, donc c'est ça, Hello Asso, la bulle douche nomade. On est d'accord?
Tout à fait.
Mais je vous remercie toutes les deux. Il y a autre chose à rajouter?
Peut-être juste qu'on peut nous contacter par mail.
Ah oui, voilà.
À contact@labulledouchenomade.fr.
C'est parfait. Merci beaucoup à Sylvie Wacrenier, qui est co-présidente de cette belle association, La Bulle Douche Nomade. Merci à Elisa Gebauer, qui est salariée. Merci de tous ces renseignements. On refera des émissions et on relance l'appel. On recherche un local de 30 mètres carrés environ sur Montpellier, facile d'accès en voiture pour stocker des vêtements exclusivement. Merci à toutes les deux. Merci à vous les auditeurs de nous nous avoir écoutés. Merci à Tom qui était à la technique et qui s'est débrouillé, mais comme un grand chef. Sioux, au revoir.
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.